allons-y.
Voilà.
Parce que j'ai dit chez les francophones, après que la lumière fut allumée. C'est pas grave, on est chez les francophones jusqu'à nouvel ordre, même s'il y a des officiels français qui ont tendance à trop parler l'anglais dans leurs fonctions officielles françaises.
Ouais.
Je le dis, c'est façon de parler de Macron, comme d'habitude.
Ouais.
Et il n'est pas le seul, puisque je rappelle que la première insulte à la langue française a été proférée par un président de la République qui s'appelait M. Valéry Giscard d'Estaing, qui, au soir de son élection, au mois de mai 1900, je ne sais plus, a commencé son discours devant les télévisions internationales, certes, mais en anglais. Donc le pli était pris et Macron, bien entendu, a suivi ce mauvais pli.
Ouais.
Et ce n'est pas le seul cas. Bon, donc cette année commence avec tout l'arbitraire de ces calendriers. Vous savez que le calendrier dans lequel nous vivons n'est pas respecté par tout le monde. Il y a des pays où on est calé sur un autre. Il y a un calendrier chinois. Enfin, bon, il y a une espèce d'accord international pour dire que ce calendrier-là est le bon. En fait, c'est une pure convention. Ce qu'il importe de savoir, c'est que le changement de date est surtout un changement de saison. C'est-à-dire que c'est en fait l'astronomie qui dirige, et c'est le fait qu'on est en hiver, que c'est le moment où les jours rallongent, et c'est le moment où les graines germent, ou commencent à germer. C'est ça qui se prépare. En hiver, c'est le printemps qui est en train de se préparer. Et ça, politiquement, ça a du sens. Autant la date du 1er janvier ou du 6 janvier pour les orthodoxes, etc. Bon, c'est une convention purement sociale. Ça n'a pas beaucoup de poids. Par contre, l'atmosphère, le climat, la vie des plantes, ça a un sens sur l'espèce humaine, dans l'espace où nous vivons. Alors, puisque j'ai commencé par la République française, j'y reste quelques instants, mais vous allez voir qu'on va vite en sortir. Il se trouve que hier, c'est très récent, le président de la République a convoqué, et il devait le savoir un peu à l'avance parce qu'apparemment ils étaient tous là, la conférence des ambassadeurs. Alors qu'est-ce que c'est que la conférence des ambassadeurs? C'est une réunion annuelle qui est organisée par le président de la République, qui on le sait est le maître de la politique étrangère et de la politique de défense du pays, qui fait venir à Paris tous les ambassadeurs et il leur donne sa vision de l'état du monde et puis il leur dit voilà votre feuille de route, voilà ce que vous avez à faire, ce que vous avez à faire au nom de la République française que je préside pendant l'année qui va s'écouler. Donc c'est très clairement les consignes du patron. Alors c'est dit en termes diplomatiques, c'est des ambassadeurs, on parle poliment, on parle bien le bon français, etc. Mais c'est ça que ça veut dire. Or il se trouve que cette conférence des ambassadeurs a lieu tous les ans début septembre, voire même dans les derniers jours d'août. C'est-à-dire c'est une façon de montrer la rentrée diplomatique. L'été est passé avec son calme relatif selon les années. Et puis au moment où tout le monde rentre, c'est-à-dire les élèves dans les écoles, les étudiants dans les universités, etc., les ambassadeurs retournent à leur poste, parce que beaucoup, pendant le mois d'août, sont allés un peu se promener ou sont rentrés au pays. Bon. Et ça a été décalé. Ça a été décalé, et donc c'était tout à fait inhabituel. Je crois que c'est même la première fois, puisque on en était au 30e exemplaire de cette conférence des ambassadeurs, c'est la première fois qu'elle ne se tenait pas à la période que je viens de vous indiquer. Pourquoi? Alors pourquoi? Ben, il suffit de se référer au texte. Je passe sur les toutes premières phrases où il salue tous les gens qui sont là, y compris son Premier ministre, ses anciens Premiers ministres, etc. Et il dit « Nous nous retrouvons en janvier, non en septembre, car vous étiez mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont été un succès populaire, sportif et organisationnel, un succès diplomatique aussi, dans la mesure où la France a rayonné et offert un visage éclatant au reste du monde. » Alors, c'est tout à fait clair. Par quoi M. Macron commence? Il commence par, on dirait, se cirer les pompes lui-même. C'est exactement ça. Oui. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que s'il ne dit pas lui-même que le spectacle des Jeux Olympiques, dont il a été le grand maître, a été une réussite, qui le dira? Effectivement, donc il le dit en premier, comme ça, ça évite que d'autres critiquent. Alors il les remercie pour leur contribution. Alors je pense qu'effectivement, on peut imaginer que tous les ambassadeurs ont passé leur temps à organiser dans leur ambassade des réunions avec un grand écran pour montrer la cérémonie d'ouverture et je ne sais quoi. Bon, alors en fait, il se situe comme ça pour ce qu'il est. C'est-à-dire, qui c'est M. Emmanuel Macron? Vous croyez que c'est le président de la République? Non, pas du tout, c'est un organisateur de spectacles politiques. Et là, il est tous à son avantage, il sait faire. Alors après, bien sûr, quand on gratte, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de consistance dans le personnage. Mais en tant qu'organisateur de spectacle, il est bon. Et il n'est pas bon tout seul. J'allais dire, parce que qui on voit et qui se montre, c'est lui qui dit « Regardez tout ce que j'ai fait, regardez comme je parle bien, regardez la réussite de mon spectacle. » Mais en fait, ce qu'on oublie, et je verse volontiers ma contribution à son éloge, c'est la metteuse en scène. Car en fait, M. Macron n'est rien en tant que comédien s'il n'a pas sa metteuse en scène. C'est Mme Trogneux, la maîtresse des cérémonies. Mais Mme Trogneux, elle fait la mise en scène et puis elle lance son comédien qu'elle a choisi ou qu'ils sont choisis ensemble et c'est lui qui fait le spectacle. Et il est parfait dans ce rôle-là. Excellent acteur, capable de tenir tous les langages, le langage diplomatique enrobé, les insultes pour les pays étrangers, des crachats sur des minorités. Tout est possible chez ce personnage. Il suffit qu'on lui change son texte, il change de rôle. C'est un excellent acteur. C'est pas un bon président de la République, mais ça, on le comprend. Et les Français l'ont compris, puisque le parti qu'avait fondé ce monsieur n'atteint à peine 20% aux élections quand il se présente tout seul. C'est-à-dire, il est même en voie de disparition. Donc, en tant qu'homme politique, il n'a aucune surface. Mais en tant qu'acteur, il est très très bon. Et moi, je salue au passage, avec un clin d'œil ironique, la metteuse en scène qui fait très très bien le travail et qui a su trouver effectivement un acteur de qualité. Je ne pense pas, je ne sais pas comment elle est dans sa tête, Madame Brigitte Trogneux, je ne pense pas que, quand elle était plus jeune, elle ait imaginé d'être la femme du président de la République. Et là, elle a découvert un rôle où elle donne toute sa mesure de grande metteuse en scène. Bravo, Madame Trogneux. Bon, pour la France, mon Dieu, on n'attend pas grand-chose de vous, ni de lui, ni de vous. Mais pour le spectacle, vous êtes bon. C'est d'ailleurs ce qu'il a reconnu lui-même. Et puis, ça, c'était le premier passage qui était intéressant dans la conférence aux ambassadeurs. Et puis après, il leur a dit un petit peu des choses très, très intéressantes, qu'il avait besoin d'eux et qu'on allait continuer, la France allait continuer. Alors, et alors que l'on écrivait en l'an 2000 une histoire qui était toute tracée, la démocratie conquérante, la fin des conflits, la lucidité de nous conduire à voir qu'un quart de siècle plus tard, ce n'est pas tout à fait ce que nous vivons. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Macron. La démocratie n'est pas conquérante, c'est vrai. Les conflits ne sont pas vraiment finis. La lucidité est encore à retrouver. Et c'est tout. Pourquoi, en le disant, je dis à des femmes et des hommes qui savent l'exigence de cette mission de diplomate et la réalité de ce que ce mot « désordre » signifie, je veux exprimer une reconnaissance toute particulière, alors écoutez bien la liste, à nos agents, donc les diplomates et toutes les personnes qui sont dans les ambassades, alors à nos agents à Kiev, c'est là c'est très important, à Beyrouth, c'est là c'est très important, à Jérusalem et à Tel Aviv, à Bamako, à Ouagadougou, à Port-au-Prince et à Caracas. Partout où il a fallu chaque jour montrer du courage dans l'action et où servir le pays était particulièrement dangereux. Alors retenez bien ça, hein. Monsieur Macron dit que la France a manifesté du courage à Kiev en envoyant des canons et des mercenaires. Elle a manifesté du courage à Beyrouth en laissant l'agression israélienne se faire et même en la favorisant. Elle a donné un satisfecit à M. Netanyahou à Jérusalem et à Tel Aviv. À Bamako, elle s'est un peu fait taper sur les doigts et effectivement, elle regrette que ce soit terminé comme ça. À Ouagadougou aussi. À Port-au-Prince, elle fait partie des trois puissances qui continue de maintenir les Haïtiens en esclavage depuis deux siècles. Et à Caracas, on sait, et au passage je salue, puisque demain, effectivement, Nicolas Maduro sera intronisé dans son nouveau mandat. L'élection a eu lieu en juillet, mais c'est demain qu'il commence son nouveau mandat pour cinq ans à la tête du Venezuela. Donc partout où il a fallu montrer du courage dans l'action et où servir le pays était particulièrement dangereux. Et oui, Monsieur Macron, c'était dangereux. Pourquoi ? Parce que vous êtes, et nous sommes avec vous, hélas, dans le mauvais camp de l'histoire. On est dans le camp des néo-nazis à Kiev, dans le camp des islamistes à Beyrouth maintenant. À Jérusalem, on est dans le camp des fanatiques du sionisme. À Port-au-Prince, on est dans le camp des dominants. Et à Caracas, on est dans le camp de ceux qui ne voulaient pas que Monsieur Maduro soit réélu et qui avaient choisi, pour être à la tête du Venezuela, un homme et une femme, enfin une femme et un homme, puisqu'il y avait une femme qui tirait les ficelles et un homme qui était l'acteur, qui n'ont réussi à rien du tout. Voilà, alors, voilà le beau métier de diplomate, c'est-à-dire aller soutenir des causes perdues les plus à droite possible, les régimes fanatiques, sectaires, racistes. Et c'est ça que M. Macron propose comme feuille de route à ses diplomates. Voilà, voilà une introduction. Alors, le texte est long, il est sorti hier, donc on y reviendra assez largement la semaine prochaine quand on l'aura décortiqué. Mais tout y est. Il y a la Nouvelle-Calédonie auquel il veut du bien, l'Azerbaïdjan auquel il veut évidemment du bien. Alors, pourquoi il s'en prend à l'Azerbaïdjan? Je dis un mot, puis on y reviendra la semaine prochaine. Parce que il dit en substance que les Kanaks sont soutenus par le président de l'Azerbaïdjan. Alors en fait, c'est une simplification grossière, puisqu'il se trouve que l'année dernière, l'Azerbaïdjan était président du mouvement des non-alignés, et les Kanaks se sont adressés à lui en disant « Le mouvement des non-alignés nous a toujours soutenus dans notre lutte pour l'indépendance, et le président d'Azerbaïdjan, mais on continue à vous soutenir, c'est évident, vous êtes une colonie, c'est pas que moi qui le dis, c'est l'ONU lui-même qui le dit, et donc on vous aidera dans la décolonisation. » C'est pas la peine de montrer M. Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, du doigt. Il n'a fait que son travail, ça correspond à la position de l'ONU. Et je n'insiste pas plus là-dessus, parce que j'allais commencer justement par le tour de ces gens qui ne sont pas en bonne santé politique. M. Netanyahou, je l'ai cité, n'est pas en bonne santé politique, outre le fait qu'il a subi une petite intervention chirurgicale, mais il est à la tête d'un pays qui souffre énormément dans son économie, dans sa société, qui est montré du doigt par la grande majorité de la population de tous les pays aujourd'hui. Et il est à la tête d'un pays qui est en quasi-faillite économique, c'est-à-dire que sans les injonctions, il est sous perfusion de dollars. Hein, voilà comment ça circule, le sang dans l'économie israélienne, c'est une perfusion permanente de dollars. C'est comme ça que l'économie israélienne marche. Outre, alors on parle des 3 milliards par an, c'est beaucoup plus que ça, et puis c'est l'apport d'armes, et c'est les techniques spéciales de coups d'État, etc. Bon, tout ça fait partie du personnage, il est affaibli, et c'est tout à fait clair. On ne sait pas d'ailleurs ce qui va suivre, parce qu'il y a un tout petit courant dans la population israélienne qui commence à dire qu'il faudrait quand même revoir notre position, mais il est encore très, très, très minoritaire. Ouais. Toujours est-il que lui est en mauvaise santé dans tous les sens du terme. Un autre qui est en mauvaise santé aussi, il y en a quelques autres, c'est le chancelier allemand. C'est le chancelier allemand qui, effectivement, ouais, à force de bourdes, de propos inconsistants, à force d'avoir accepté de laisser casser le pipeline, le gazoduc Nord Stream qui alimentait l'industrie allemande, il se trouve dans une position délicate. Et d'ailleurs, il est démissionnaire et les élections seront pour le mois de février, donc un autre très faible. Un autre très faible, c'est Madame Meloni, la néo-fasciste italienne. Ouais. Qui est contesté, bien entendu. D'autres sont aussi faibles. Je pense, vous avez peut-être une pensée pour M. Trudeau, fils de son père, qui est contesté au Canada même. Et on en a quelques autres. Et ils n'ont pas ceci de particulier, Mme Meloni, M. Trudeau en particulier, qu'ils étaient de farouches supporters de M. Zelensky. Alors, M. Zelensky, effectivement, là aussi, on peut parler de ceux qui sont en train de disparaître dans les décombres de l'année 2024. Il n'a plus beaucoup d'appui, et même dans la population ukrainienne, on a des doutes sur sa longévité. Et ça se traduit par des petits faits dont M. Macron n'a pas parlé à sa conférence des ambassadeurs, puisque vous avez sans doute entendu dire que la France avait formé, dans le camp militaire de la Courtine, qui est dans le département de la Creuse, une brigade, donc un corps d'armée ukrainien, qui portait le nom d'Anne de Kiev. Je m'arrêterai un instant là-dessus. Et de cette brigade, d'une part, il est parti des gens qui étaient des Ukrainiens qui étaient en formation sur place, quand ils ont vu la France et qu'ils ont vu qu'on pouvait circuler librement et qu'en plus ils étaient accueillis librement, ils n'avaient pas de problème, ils ont pris la poudre d'escampette et un beau matin, ils ne se sont pas présentés à l'entraînement. Et on ne peut rien faire pour eux. Ils ont des papiers en règle, ils n'ont pas signé quoi que ce soit avec la France et donc ils vont se promener. Bon, ça c'était un petit détail. Alors l'état-major français minimise, oui, une cinquantaine de gens qui sont partis comme ça, c'est pas grave. Et puis, une fois qu'ils ont été sur le terrain, le mauvais penchant s'est accru. Et donc on sait que quand ils sont arrivés là où ils devaient combattre, il y en a presque 2000 qui ont déserté aussi.
C'est ça.
C'est dire qu'ils n'étaient pas très très convaincus de la justesse de la cause qu'on voulait les faire servir. Donc affaiblissement de M. Zelensky manifeste. Au point qu'on se dit que peut-être une succession est envisagée, mais je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il va y avoir des négociations. Négocier avec qui ? La Russie refuse de négocier avec ce personnage qui ment tout le temps, qui dit qu'il ne va rien faire et qui ne s'arrête pas de tirer tout ce qu'on lui dit de tirer sur la Russie, etc. Donc, n'espérez pas, au moins pas dans ma bouche, n'espérez pas de dire qu'il y aura un cessez-le-feu bientôt et des négociations bientôt. Ce n'est pas du tout le tour que ça prend et on ne voit pas qui pourrait changer la position de la Russie à ce sujet, qui est une position extrêmement forte militairement. Je m'arrête un peu sur cette expression, extrêmement forte militairement, puisque la dernière prise de l'armée russe, c'est la ville de Kourakovo, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un endroit difficile à prendre. On va dire pourquoi pendant des mois l'armée russe a de la peine à libérer une ville ? Parce que la réponse est parce que ce n'est plus une ville. C'est-à-dire vous prenez une ville avec une mine de charbon, avec des usines, avec des souterrains, des galeries de mines, etc.
C'est ça,
ouais. Et depuis 2014, vous transformez cette ville en place forte, avec des passages souterrains, des systèmes de communication et tout, ça ne tombe pas comme ça dans un assaut. Ce n'est pas une tranchée à Verdun, Kourakovo. C'est un endroit qu'il faut détruire pierre à pierre et il faut arriver à étouffer l'ennemi. Parce qu'envoyer des vagues comme ça de fantassins à pied qui vont courir dans les rues de Kourakovo, c'est envoyer les soldats russes au massacre. C'est pour ça que c'est long. Et c'est aussi ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est pas du tout la façon dont on nous présente cette guerre quand on nous la présente en dehors des thèmes propagandés. On n'explique rien. C'est une guerre très très particulière, avec toute une série de points forts. Il y a déjà eu Mariupol, celui-là c'en était un autre, c'est un très très gros. Et il faut les faire tomber un par un, en ne laissant pas des dizaines de milliers de soldats russes sur le sol.
C'est ça.
Parce que puisqu'on en est au bilan humain, des journalistes britanniques en particulier sont en train de dévoiler le poteau rose à peine, mais l'armée ukrainienne aurait perdu quelque chose entre 800 000 et 1 million d'hommes dans ces batailles-là. Alors bravo, le bilan de M. Zelensky, alors c'est même pas son bilan lui, puisqu'on lui a dit de le faire et qu'il a fallu qu'il trouve les personnages pour le faire. Au point qu'il en est aujourd'hui à lancer donc la conscription des jeunes garçons de 18 ans. Alors je ne sais pas s'il en reste et j'espère que leurs parents de ces garçons de 18 ans sont assez intelligents et débrouillards pour les faire fuir le plus vite possible quelque part où ils ne seront pas soumis à ce genre d'obligation meurtrière. Donc tout ne va pas bien. Et on voit arriver, alors dans la foulée de cette cacophonie, on voit arriver un personnage qui est en train de dire voilà ce que va être le monde nouveau. Je veux parler de M. Elon Musk. M. Elon Musk, auréolé de son titre de plus grand milliardaire de la planète, se promène, ici et là, en particulier en Europe, et il dit « lui me plaît, lui me plaît pas », il fait son tri, il remplace d'une certaine façon les électeurs. Alors je dis remplacer les électeurs, il faut bien voir le sens de l'expression. Remplacer les électeurs, ça veut dire « il va y avoir des élections ». Mais moi, si je mets dans le système électoral, dans le système propagandiste, dans les radios, dans les télévisions, des centaines de millions de dollars pour changer les messages, vous savez qu'il est propriétaire d'une chaîne qui s'appelle X, ça vous dit quelque chose ? Bon, et M. Musk se sent en capacité, alors j'espère qu'il ratera, mais il se sent en capacité de dire « moi, je dis que dans tel pays, c'est tel parti qui doit gouverner, 3 mois avant les élections, je déverse mes centaines de millions de dollars aux bons endroits avec les manipulateurs d'opinion, etc. et j'y arrive ». Et c'est ce qu'il est en train de faire en Allemagne, en disant que le parti d'extrême droite va arriver au pouvoir et qu'il le souhaite. Oui, et c'est ça qu'on nous présente comme l'avenir de notre humanité. Alors je rappelle que M. Elon Musk est un enfant de l'apartheid, qu'il est né en Afrique du Sud, qu'il est porteur, j'ose pas prononcer le mot valeur, il est porteur de cette perversion de l'opinion consistant à dire qu'il y a des gens d'une couleur qui sont bons et des gens d'une autre couleur qui sont mauvais. Bon, ça c'est une faute grave contre la civilisation, il en est le porteur, et c'est là que ça lui permet de dire « j'arrive en Allemagne, il y a un parti d'extrême droite, je dis que c'est le bon, et puis voilà, et je mets l'argent qu'il faut dans la mécanique en espérant que le résultat sera au bout. » On verra dans un mois et demi, mais il fait comme ça. Il fait comme ça en Italie, il fait comme ça partout où il passe. Il va s'en prendre probablement au Premier ministre britannique, assez vite. On va voir ça dans quelques temps. Donc voilà ce qui se passe dans le camp. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? que M. Elon Musk fasse. Ça veut dire que ce camp-là, c'est-à-dire le camp de la droite et de l'extrême droite de l'argent, parce que c'est un camp de l'argent, ce camp considère qu'il va avoir le pouvoir dans la totalité du monde. C'est ça qui est devant nous. Qu'il va avoir la totalité du pouvoir partout du fait qu'il a l'argent et que l'argent permet tout. Tout le monde peut être acheté, tout le monde peut être emprisonné s'il ne se laisse pas acheter, tout le monde peut être tué s'il ne marche pas dans la combine. C'est ça la logique qu'il y a derrière M. Elon Musk. C'est une logique d'extrême droite qu'il est en train, qu'il espère de répandre partout avec la complicité de son petit Donald qui est là dans le même dispositif. Ça a des suites très rapides, puisque... Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le président de l'Autriche a décidé de donner le pouvoir au parti d'extrême droite, c'est-à-dire il lui confie la formation d'un gouvernement. Et donc là, c'est très bien aussi, M. Musk va pouvoir contribuer au financement, etc. etc. Donc cette extrême droite, elle est rassemblée, elle est de plus en plus unie, et elle est unie par des liens d'argent entre les mains de personnages de ce type-là. Ceux qui résistent, c'est tout un autre monde, on va en parler largement. Ceux qui résistent, oui, qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est rien.
Tu
es
pas en face du micro.
Je suis pas, voilà. Donc, voilà le climat, le paysage actuel politique dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire, l'extrême droite... Alors, j'ai fait abstraction de la situation française, mais vous savez que l'extrême droite est en embuscade, allons dire. Elle attend de prendre le pouvoir quand Macron le lâchera. Alors, je pense que Macron n'est pas du genre à lâcher facilement, mais il trouvera un compromis sur un certain nombre de positions. Et donc, ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont désormais, à travers Musk et Trump indirectement, parce que Trump va suivre le mouvement de Musk, sont à la tête d'un courant d'extrême droite qui veut installer sa discipline sur l'ensemble du monde. Alors, il a réussi dans quelques endroits, je pense à l'Argentine, il n'a pas réussi partout, et ce qu'il y a d'important, et c'est ce vers quoi nous devons nous... tourner, c'est que ce sont les populations du reste du monde qui disent qu'ils ne veulent pas de ça. Et qu'ils ne veulent pas que la moindre base américaine à 50 km de chez vous, un jour ou l'autre, vous bombarde, vous tue, etc. C'est ça qu'ils ne veulent pas et c'est ça qui se joue. Alors ça se joue entre autres, en particulier, en Syrie. Pourquoi ça se joue en Syrie ? Parce que la Syrie est une espèce d'entonnoir où l'ancien monde est en train de passer à travers. Je fais cette image-là pour bien faire comprendre. On a un entonnoir, et donc un entonnoir, ça a tendance à se vider par le bas. Qui est venu dans l'entonnoir ? Ben, tous ceux qui, pour moi, sont appelés à disparaître du champ politique. Alors, je vais être très très clair, c'est ambitieux. Qui va disparaître du champ politique ? Monsieur Erdogan. Monsieur Erdogan, car Monsieur Erdogan n'est pas un démocrate. Les prisons turques sont parmi les plus horribles qui existent sur la planète. Monsieur Erdogan est répressif. Monsieur Erdogan est sectaire. Tout ça, on le sait. Il est hypocrite, ambigu, etc. Bon, lui, il est dans cet entonnoir et je pense qu'il va y laisser la peau. Pas lui, personne, je n'ai rien. Il a aussi, alors je signale, c'est peu connu, mais il y a à l'intérieur de la Turquie actuelle un mouvement qu'on appelle les loups gris. C'est-à-dire, c'est un mouvement fasciste qui est protégé par le gouvernement, qui est capable de faire des attentats dans n'importe quel pays du monde. Écoutez bien. Bon, les loups gris, ça fait partie du système Erdogan. Alors, après, on vous dira, il y a des élections. Oui, le maire d'Ankara n'est pas du parti. Oui, très bien. N'empêche que le fond du régime, c'est ça. Des prisons pleines, des prisonniers en grève de la faim qui meurent tous les ans, des écrivains qui ne peuvent pas écrire dans leur pays, qui sont publiés à l'étranger. C'est ça, la Turquie d'Erdogan. Et c'est pour ça que je dis la Turquie d'Erdogan, là, elle va passer dans l'entonnoir. Premier. Deuxième qui doit passer dans l'entonnoir, Netanyahou. Pourquoi il va passer dans l'entonnoir ? Parce que maintenant, le monde entier sait que ce pays, ce dirigeant et le parti qu'il dirige sont des tueurs, sont des génocidaires, que le monde entier le sait et que lui seul n'en a pas pris conscience. Même, il est même content d'être ce qu'il est. c'est-à-dire qu'il est condamné au titre de la conscience de l'humanité. Il est condamné à disparaître. Et donc, il a beau s'agripper sur un petit morceau de Golan, il a beau voler l'eau du Yarmouk au roi Abdallah de Jordanie, il a beau voler les sources du Jourdain à la Syrie ancienne, en fait, il est condamné parce qu'il est un personnage qui ne représente pas l'avenir de l'humanité. Il est un personnage égoïste qui ne veut que l'avenir des gens qui le suivent, c'est-à-dire l'avenir de ce peuple qui a dit qu'il était élu de Dieu. Bon, cette illusion, il la garde volontiers, mais de toute façon, là, il est en train, il va se noyer dans cette espèce de tourbillon descendant qu'est la Syrie d'aujourd'hui. Qui va s'y noyer encore ? Eh bien, je prends les paris, Abim me critiquera peut-être, je pense que le mouvement djihadiste va s'y noyer aussi. Va s'y noyer ça, aussi parce qu'il va être dans l'incapacité de gouverner la totalité du pays. Ce qui est déjà le cas, puisqu'il ne gouverne pas les zones où c'est Erdogan qui gouverne, il ne gouverne pas les zones où c'est Netanyahou qui gouverne, et la preuve est faite maintenant qu'il ne gouverne pas non plus les partis kurdes de l'Est. Bon, je vais y revenir. Ouais. Donc en fait, le mouvement djihadiste est sur une petite bande qui va de Alep à Damas, en gros, le long de l'autoroute, essaye de mettre les dents et de tuer tout ce qu'il y a d'opposition possible sur la côte, dans la zone alaouite chrétienne, hein, entre Latakia et Tartous. Bon, mais c'est tout. Et là même, il n'est pas du tout sûr, puisque la résistance populaire commence, et donc il n'est même pas du tout sûr d'asseoir son pouvoir sur cette zone-là. Donc je pense que le mouvement djihadiste, mouvement financé par les émirs et par les États-Unis depuis les origines, va aussi connaître sa fin, là, lamentable, en disant, vous avez été au service des intérêts de l'Empire, l'Empire est faible, vous vous noyez avec. Allez, dans l'entonnoir. Bon. Après, quatrième occupant, les États-Unis. Alors les États-Unis sont dans une position un peu particulière, ils se trouvent confrontés à trois autres occupants qui ne sont pas de la même taille, quand même la Turquie, ce n'est pas les États-Unis, Israël, ce n'est pas les États-Unis, les djihadistes, bon, c'est les enfants des États-Unis, donc on peut... Mais en fait, la Turquie, les États-Unis sont en train de prendre une position pro-kurde, qui est assez intéressante à suivre, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train d'installer une nouvelle base militaire dans le nord de la Syrie, à peu près à mi-chemin entre la frontière irakienne et la mer, à Manbij. Ils le font avec des soldats qui arrivent d'Irak, puisqu'on sait que l'armée des États-Unis est en Irak, et là ils sont en train d'installer une base qui est destinée à défendre les Kurdes, qui sont là, les Kurdes syriens, disons, pour faire simple, contre les visées impérialiste et destructrice de M. Erdogan. M. Erdogan ne supporte pas les Kurdes, c'est clair. Bon. Et qu'est-ce qui se trouve aujourd'hui ? Et on a déjà des combats qui sont commencés. Il se trouve qu'aujourd'hui, que les amis de M. Erdogan sont en train de s'attaquer aux amis des États-Unis. Là aussi, il y a un vrai conflit, parce que normalement, les États-Unis devraient être les maîtres et la Turquie devrait obéir. Mais la Turquie n'obéit qu'à elle-même, à ses ambitions démesurées. Et donc là aussi, c'est un signe d'écroulement de ses capacités. La Turquie croyait qu'elle allait faire la loi dans une bonne partie du territoire syrien. Ce n'est pas du tout le cas. Alors quant aux États-Unis, je pense que leur ambition est relativement modeste, ils sont petitement. Mais s'ils arrivent, ça on verra si les Kurdes arrivent à sauver leur volonté d'indépendance qui est vieille à travers ces opérations, il se peut, je n'exclus pas, qu'il y ait un État kurde dans le nord-est de la Syrie, qui peut-être même déborderait sur le nord-est de l'Irak. Ça fait partie, je pense, des calculs des États-Unis. Mais ça veut dire que de toute façon, tous ces gens qui sont là ne s'entendront à peu près sur rien. Et que qu'est-ce qui... Alors là, c'est là que la question se pose et que je vais donner la parole à Habib. C'est là que la question se pose. Qui va décider de l'avenir de la Syrie ? Eh bien, j'allais dire, c'est les Syriens. C'est ni les terroristes, ni les sionistes, ni les Turcs, ni les États-Unis. Ceux-là, on les connaît, les Syriens les connaissent, ils les ont mis dans la misère, tous les uns et les autres. Il faut savoir, j'ai lu le chiffre absolument hallucinant, le PIB de la Syrie de 2011 à 2025 a diminué de 85%. Quel pays aurait supporté ça ? Quelle population aurait pu supporter ça ? On a mis 20 millions de personnes dans la misère noire. Bon, mais ces personnes, elles s'en rendent compte. Ceux qui sont restés, qui ont survécu, parce que tous n'ont pas survécu, il y en a beaucoup qui sont partis et qui sont maltraités souvent là où ils sont. Je pense aux camps qui sont en Turquie encore à l'heure actuelle. Ces gens-là savent bien qu'ils ont faim et ils espèrent bien pouvoir reprendre le pouvoir sur leur propre pays. qu'on leur a usurpé. Et ils voient bien que tous les gens qui viennent pour soi-disant sauver la Syrie ne sont là que pour leurs ambitions personnelles, qu'ils soient turcs, israéliens, sionistes, états-uniens, voire irakiens, qui sait. Bon. C'est ça la leçon. Et cette leçon, elle amène à réfléchir à que peut aujourd'hui penser un Syrien qui aime son pays de la façon dont les puissances étrangères traitent ce pays. C'est ce qui donne l'occasion à une association que nous connaissons bien ici, qui est présidée par un ami qui est à côté de moi, qui s'appelle Habib Turki, a donné l'occasion d'écrire une lettre ouverte à M. Emmanuel Macron, dont il va nous donner lecture. Alors ça s'est passé à la fin de la semaine dernière.
Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Roselyne qui est à son poste.
À son poste.
Qui, ouais, qui nous permet quand même de pouvoir lire bien, cette lettre d'une part. Et d'autre part, je remercie beaucoup mon ami Bernard Genet qui a rédigé cette lettre. Bien sûr, j'étais à côté. Et voilà, donc on va essayer de lire cette lettre qui a été effectué par Bernard Genet et Habib. Et je vais vous la lire. Monsieur le Président, que le président d'une association d'amitié franco-syrienne s'adresse à vous en ces jours où l'avenir de la Syrie est sombre et incertain, ne saurait vous surprendre. Mais cette démarche, pour les membres de cette association lourde de sens, est chargée d'émotions. Nous, les membres de cette association et son président, sommes des descendants directs installés en France et nous comptons au nombre de quelques centaines de citoyens syriens, auxquels, au sortir de la guerre, le général de Gaulle a accordé la nationalité française pour servir, rendu à la France libre. Nos grands-pères ou nos pères, issus de divers groupes vivant dans toute la Syrie, se sont engagés en 1941 dans les forces françaises libres et ont pris part à la libération armée du territoire de la France occupée. Campagne de Libye, débarquement de Provence, marche vers l'Allemagne, même le débarquement de Normandie aussi, il y en avait. C'est les armes à la main qu'ils ont fait connaissance avec ces pays qui allaient devenir le leur. Aujourd'hui, la Syrie est occupée par plusieurs puissances étrangères qui ont des troupes sur son sol. Elle est aussi occupée par des groupes armés, sécessionnistes pour les uns, terroristes pour les autres, tous financés et armés par des puissances extérieures. Des terroristes aux mains tachées de sang syriens, reconnus comme tels et jusqu'ici recherchés, exerce un pouvoir arbitraire et violent au nom d'un gouvernement provisoire et destiné, selon leur propre dire, à le rester prendre plusieurs années. C'est-à-dire, ça c'est évidemment, on parle des gens qui étaient à Idlib et qui étaient soutenu par la Turquie. Voilà. Nous, citoyens français d'origine syrienne, constatons qu'aujourd'hui, les Syriens de Syrie subissent plusieurs occupations dont le caractère commun est que les occupants les répriment, voire les égorgent et les écarte comme des pestiférés de toute participation au pouvoir. Et je voulais juste ajouter, personnellement, je suis syrien laïque et surtout, je suis pour toutes les minorités, quelles qu'elles soient en Syrie. Il y a une minorité qui est vraiment actuellement abandonnée par le monde entier, surtout par les impérialistes, les occidentaux, tout ça, ce sont les Alaouites. Et ça, je le regrette beaucoup. C'est pas normal. Alors, je continue. Nous, citoyens français d'origine syrienne, constatons qu'aujourd'hui, les Syriens de Syrie subissent plusieurs occupations dont le caractère commun est que les occupants les répriment, voire les égorgent et les écartent comme des pestiférés de toute participation au pouvoir. Malgré notre désarroi, nous nous refusons à admettre que notre pays, la France, puisse reconnaître ces diverses occupations militaires et leurs exactions. Ce qui m'a beaucoup aussi rendu triste, c'est que le ministre des Affaires étrangères français, qui a été en Syrie, et soi-disant, il a été serré la main d'un terroriste qui faisait partie d'Al-Qaïda, me choque énormément. Ça, c'est bon, j'ajoute. Nous attendons de la République française qu'elle défende le rétablissement république syrienne, souveraine, laïque, respectueuse de toutes les religions, les religieuses et culturelles, telles que le général de Gaulle l'avait voulu. Alors. Ah oui. Je continue, excusez-moi. Oh là là.
Je l'ai, Habib, hein, si tu veux.
Ouais, allez-y, lisez-le.
Nous considérerions toute autre politique soutenue par la France comme trahison et comme une insulte à la mémoire de nos parents qui n'ont pas hésité un instant à risquer leur vie pour la libération du pays des droits de l'homme. Monsieur le Président, la Syrie appartient aux Syriennes et aux Syriens depuis plus de 1000 ans, de 2000 ans. Pardon. Toutes les religions y sont présentes, mais des dizaines de Notre-Dame de Paris y brûlent déjà. Ne soyez pas complices des envahisseurs, ne soyez pas complices des fanatiques, n'ajoutez pas à la profonde détresse de tous les Syriens et Syriennes, où qu'ils soient, la nôtre, qui, malgré la distance, n'est pas moindre. Le président Habib Turki.
Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie une fois de plus Bernard Genet et Roseline qui est là-bas, qui vous a lu le dernier paragraphe de cette lettre. Et j'espère que la France nous entendra au moins et que je sais que la France des... la Révolution française 1789 et qui a prôné la laïcité, qui a détruit la monarchie, et c'était vraiment magnifique. Et moi, je voudrais une Syrie laïque, voilà.
Merci, Habib.
Alors, je vous remercie beaucoup.
Et bien entendu, on ne peut que partager, parce que c'est la connaissance que j'ai de l'Association d'amitié franco-syrienne remonte à il y a très longtemps maintenant, des années. Ouais, ouais. On a cru en la possibilité d'une résistance, mais lui, le choc, l'Empire a été tellement brutal, violent, a mis tellement de moyens pour détruire la Syrie telle qu'on la connaissait jusqu'à il y a un mois maintenant, que l'issue ne paraissait guère douteuse. Elle a été soudaine, surprenante, mais quand je vous dis l'état de pauvreté, l'état de destruction, l'état d'occupation déjà partielle du territoire, l'état de vol de ses richesses pétrolières, gazières, agricoles, il restait vraiment peu de possibilités pour que la Syrie, le gouvernement syrien puisse continuer à tenir debout. Maintenant, alors, le gouvernement, il n'y a plus. La population syrienne continue à souffrir, et elle continue à souffrir sous des bottes qui sont des bottes de terroristes, sous des bottes de sionistes, sous des bottes très, très
beaucoup
dangereuses.
Beaucoup de règlements de compte.
Voilà, règlements de compte. Et sur des gens, effectivement, qui n'hésitent pas à décapiter, à égorger, etc. Ouais. Et à brûler des lieux saints, hein, puisque l'allusion à Notre-Dame de Paris était limpide pour ceux qui se tiennent au courant. Effectivement, ils brûlent les terroristes, les djihadistes, etc. Ils brûlent aussi des lieux saints des autres religions. C'est-à-dire qu'ils manifestent une intolérance qui n'est pas surprenante, puisque c'est l'intolérance d'Al-Qaïda, c'est l'intolérance des Wahhabites. Tout ça est connu. Simplement, ce qui est en train d'avoir lieu et ce que nous dénonçons, c'est la mystification. Il ne s'agit pas de libérateurs. Il ne s'agit en aucune façon de libérateurs. Il s'agit d'agents de l'étranger, porteurs d'une idéologie raciste extrêmement dangereuse et qui font partie de l'extrême droite mondiale en cours d'organisation. C'est pour ça que j'ai développé au début sur Elon Musk. L'extrême droite mondiale est en train de s'organiser pour être seule au pouvoir. Le problème, et heureusement il est de taille, c'est que l'extrême droite mondiale a une influence sur à peu près 1 milliard d'habitants de la planète. Sur tout le reste, l'influence est en train de lui échapper, et c'est tant mieux. Et c'est ça qui se passe. Alors, ce n'est pas instantané, ça va mettre le temps, mais ça fait partie de l'espoir de 2025. Ceci étant, et je reviens sur ce qu'Habib disait tout à l'heure, quand on a vu, je crois que c'était vendredi dernier, deux ministres des Affaires étrangères de deux principaux pays de l'Union européenne, donc M. Barrot, ministre des Affaires étrangères de la République française, et Mme Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale allemande, rendre visite aux terroristes avec sa cravate.
Quelle honte que,
voilà, c'était une honte pour la République. Que venait-il faire? Et on ne sait pas du tout quel a été le contenu de leurs accords. Hein, ce qu'on a vu, ce qui était spectaculaire et qui en dit long pour la suite, mais on sait déjà que les manuels scolaires vont être retouchés par le gouvernement provisoire de M. Al-Shaara. Ouais. Ce qu'on a vu, c'est que M. Al-Shaara a refusé de serrer la main d'une femme.
Femme, oui.
Parce qu'elle est une femme.
Grave.
Bon. Alors, j'espère, alors, moi, j'appelle les féministes, hein, vous réagissez en disant que les femmes iraniennes sont maltraitées. Ok. Faites-le aussi pour les femmes syriennes. Tout de suite, c'est commencé. Hein. Ça s'est vu manifestement. Sur les actualités qui ont été proposées après sur les chaînes donc, qui sont plus ou moins amies avec la nouvelle équipe de gouvernement syrien, le visage de Mme Annalena Baerbock était flouté. On ne la voyait pas. Une femme ne peut pas être ministre. C'est ça que ça veut dire.
Oui.
Rendez-vous bien compte. Alors, bougez, dites ça, réouvrez les yeux. Le mauvais traitement des femmes, ce n'est pas réservé à tel ou tel pays sur lequel vous êtes ciblé en permanence. Hein. Là, c'est un exemple manifeste et votre gouvernement est coupable. Il trempe là-dedans. Alors, M. Macron peut bien, aux ambassadeurs, faire des ronds de jambes, faire de jolies phrases et tout sur les valeurs de la République. En fait, c'est quand même lui qui a envoyé M. Barrot là-bas. Pour faire quoi? Qu'est allé faire M. Barrot? Il a demandé à ce monsieur en cravate d'être gentil. Enfin, ce monsieur en cravate, d'abord, il ne contrôle pas tout le territoire. Il ne contrôle même pas ses hommes. Hein, parce que les exactions dont on a entendu, il contrôle personne en fait. Alors on lui donne du pouvoir médiatique, on fait croire qu'il gouverne, on va lui laisser établir des législations rétrogrades, anti-républicaines, anti-féministes, anti tout ce qu'on peut imaginer.
Oui, d'ailleurs il a nommé un ministre de la justice qui est d'Al-Qaïda et que ce mec il a dit que les femmes restent à la maison. Et ils n'ont pas, pratiquement, je ne sais pas s'ils ne vont pas lui défendre d'aller à l'école et s'instruire.
Oui, mais on en est à proximité. Ah. On en est à proximité. Alors, donc, regardons bien ça pour ce que c'est. Hein, et ne disons pas, la Syrie est tombée, c'est bien fait. C'est pas bien fait ce qui se passe. Et c'est le sens de la lettre. Et c'est bien que l'association l'ait envoyé. Le sens de la lettre, c'est que les Syriens, aujourd'hui, ne comptent pas dans la réflexion sur l'avenir du... Il ne compte pas, hein, parce que M. Al-Shaara n'est pas syrien, ses ministres ne sont pas syriens, les troupes occupantes serbes sont étrangères par définition. Il n'y a pas de Syrie de Syriens qui s'occupent des problèmes de la Syrie pour demain et après-demain. Voilà, c'est ça le nœud du problème. Hein. Et ça, M. Macron ne le dit pas. Il dit, comme c'est dur d'être en poste à Beyrouth, à Tel Aviv. Ah oui, c'est dur. Hein. Mais ça va être... Et alors, effectivement, l'ambassade de France a réouvert ses portes. Il n'y a pas d'ambassadeur nommé.
Non, pas ça.
Mais il risque d'y en avoir assez vite. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu d'ailleurs sur l'attitude des États-Unis qui est un peu particulière. D'une part, les États-Unis jouent carrément un jeu particulier dans la partie nord-est et dans la partie kurde, qui est un jeu tout à fait antagonique à celui de la Turquie. Première chose. Deuxième chose, les États-Unis ont levé les sanctions, enfin ont retiré plutôt M. Al-Shahra de la liste des terroristes. Bon, façon de dire, on peut aller le voir, parce que même si un ministre des États-Unis vient lui serrer la main, on ne va pas dire que ce n'est pas bien. Hein. C'est pour ça que M. Barrot y est allé, a serré la main, lui. Mme Baerbock n'a pas pu serrer la main, puisqu'on ne lui a pas tendu la main. Mais, oui, alors, eh bien, peut-être vous... alors quand même, je signale quand même, parce que c'est presque ahurissant. Mme Baerbock, ministre de la République fédérale allemande, 80 millions d'habitants, première puissance économique européenne jusqu'à nouvel ordre, bon, encore que l'économie soit affaiblie et flanche. Mais Mme Baerbock arrive dans un aéroport, dans un pays où, soi-disant, le calme est rétabli après le départ du gouvernement, avec un gilet pare-balles à la sortie de l'avion. Alors, mais où vivons-nous pour que des relations diplomatiques se nouent? On voit arriver un ministre des Affaires étrangères d'une grande puissance, et ce ministre arrive avec un gilet pare-balles. Le monde n'est pas très très tranquille, parce que, en fait, peut-être les services de renseignement allemands lui ont dit à cette dame, c'est, Monsieur Al-Shahra maîtrise plus ou moins la situation, et comment exclure qu'il n'y aurait pas, quelque part dans le personnel qui naviguerait sur le tarmac, quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions à votre égard? Par exemple, un djihadiste fou qui dirait, mais les femmes ministres, c'est pas bon, je tire. Voilà. C'est pour ça qu'elle avait un gilet pare-balles. Hein. Il faut bien analyser les choses. Elle pensait pas que M. Al-Shahra allait lui tordre le cou, mais elle sait que l'endroit est instable, dangereux. Bon, elle l'a compris. Bon, c'est tout ça qu'il faut bien piger. Donc,
beaucoup nous avons... d'hypocrisie.
Beaucoup,
oui.
beaucoup d'hypocrisie, tout à fait. Et donc, M. Macron peut le lundi faire ça, après que M. Barrot soit allé faire la comédie à Damas. Bon. Alors, je reviens aux États-Unis, parce que les États-Unis avancent avec beaucoup de prudence. D'une part, ils ont un plan côté kurde. Ça, c'est clair, ils l'ont manifesté. Ils ont installé une base qui défend, une base militaire qui est là pour défendre les intérêts des Kurdes, de ceux qui militent pour la
Est-ce que tu crois qu'ils vont laisser la Turquie de côté? Ça m'étonnerait.
C'est là que je dis,
ça
c'est pour ça que je dis, cette Syrie
parce
actuelle...
Parce qu'ils ont quand même des grandes bases américaines en Turquie,
voilà.
Et que pour le moment, on va s'en servir d'Erdogan.
S'ils les déplacent, je ne sais pas, parce que Erdogan a joué celui qui s'émancipe de la tutelle du grand frère américain, il n'est pas du tout sûr que Trump et Musk décident de lui laisser la bride sur le cou très très longtemps. Surtout s'il se met en travers des projets des États-Unis. Deuxième chose, les États-Unis donc ont enlevé M. Al-Shahra de la liste des terroristes, mais ils n'ont pas enlevé les sanctions économiques. Ils n'ont. Ils laissent,
jusqu'à présent, oui.
Voilà, ils laissent venir l'aide humanitaire, heureusement, les autres, évitent aux Syriens qui sont là de ne pas mourir de faim, mais ils n'ont pas levé les sanctions. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement prudents sur la suite des événements, et surtout s'ils se disent, si en fait Al-Shahra obéit principalement à Erdogan, c'est pas à nous qu'il obéit vraiment. Et donc, ils sont plus ou moins en confiance.
Et encore, ils s'en servent de l'État d'Israël pour occuper davantage.
Voilà.
Des terrains.
Voilà. Mais Israël joue pour lui. Non, c'est, hein, prendre l'eau aux Jordaniens, prendre l'eau à tout le monde.
Je crois que en Jordanie, c'est à la frontière d'ailleurs, c'est en Syrie, il se trouve cette source d'eau-là. C'est en Syrie, pas en Jordanie.
Oui, c'est en Syrie, oui. Oui,
c'est en Syrie.
Non, en Jordanie, il n'y a pas de source, en fait. Il y avait une partie des eaux du Jourdain et du Yarmouk, donc, qui est le principal adhérent.
Mais ça, c'est à l'intérieur, oui.
Voilà.
À l'intérieur.
Qui avait été détourné. Il y a un canal qui amène les eaux du Yarmouk à la Jordanie. Mais ça a été coupé par Israël. Donc aujourd'hui, sur le papier au moins, si on s'en tient à cette information-là, la Jordanie n'a plus d'eau du tout.
Ah oui, oui.
Sauf quelques puits. Donc elle va mourir de soif assez vite. Donc on a un facteur de crise non nul et on rentre tout à fait dans la politique d'Israël qui a passé son temps depuis sa création à voler l'eau des autres puisqu'il n'en avait pas sur son propre territoire, son propre morceau de territoire, que ce soit l'eau des sources ou l'eau du Jourdain.
Parce qu'en Syrie, ils ont travaillé énormément sur l'eau, surtout ils ont créé 8 lacs artificielles. Ils ont créé aussi sur l'Euphrate.
Oui, des barrages, oui.
Hein?
Des barrages sur l'Euphrate.
Le barrage et le barrage qui se trouve à côté de la Jordanie. Mmh. C'est un barrage qui est de la Syrie, voilà.
Pour amener l'eau.
Ils ont fait beaucoup de travail pour l'eau, quoi, parce que c'est vrai que l'eau, c'est quelque chose de très important au Moyen-Orient.
Voilà, donc États-Unis, position. Position en plus d'attente, dans la mesure où il reste encore maintenant 10 jours ou 12 jours, mais qui vont être extrêmement agités encore. C'est-à-dire que l'administration Biden n'est pas morte, elle bouge encore, j'allais dire. Alors Biden lui-même, je ne sais pas s'il bouge beaucoup, il n'est pas capable, mais par contre son ministre des Affaires étrangères fait la tournée des popotes, bardé d'inquiétude. Il est allé en Corée du Sud. Vous savez, le président a tenté un coup d'État et va se retrouver, ça vient d'être confirmé, devant les tribunaux pour un chef d'État qui organise lui-même un coup d'État. C'est assez rare quand même. Et qui va se retrouver probablement en prison. Et je ne sais pas quelle est la loi punitive qui sévit, qui existe en Corée du Sud. Mais un chef d'État qui trahit son État au point de faire lui-même un coup d'État, c'est la prison à vie. Je veux dire, comment... Bon, alors il ne fera peut-être pas... Je souhaite la prison de personne, mais enfin, c'est très très inquiétant. Et M. Blinken va au Japon pour être sûr que le Japon va rester dans la main des États-Unis. Parce qu'il y a des doutes. Parce qu'il y a des doutes, parce que le Japon voit bien qu'autour de lui, d'une part, la Corée du Nord devient quelqu'un qui est respecté, à défaut d'être présenté comme respectable, quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui a des armes, quelqu'un qui a des amis, en particulier la Russie, et la Chine. Donc la Corée du Nord inquiète. La Corée du Sud est dans un état politique, moral extrêmement dégradé. Alors, bien sûr, mais ça n'est pas contradictoire, c'est une Coréenne du Sud qui a eu le prix Nobel de littérature, mais ce qu'elle raconte de l'histoire passée de la Corée fait froid dans le dos parce qu'elle mérite d'être connue. C'est une histoire épouvantable. La façon dont l'occupant japonais a traité les Coréens, c'est une histoire atroce qui a été occultée, mais c'est bien qu'elle revienne à la surface et qu'on s'en rende compte. Et donc M. Blinken est dans la panique, c'est-à-dire il court partout pour dire on va essayer d'assurer et puis on va essayer de faire les derniers gestes possibles. Alors on donne des ordres à M. Zelensky de tirer encore des missiles sur la Russie, autant qu'il en reste, tous les jours, maintenant, ça ne va pas arrêter pendant encore 15 jours maintenant, semer le maximum de désordre pour que la situation du nouveau président soit intenable, qu'il ait des jours et des jours, ou des semaines ou des mois, avant de maîtriser quoi que ce soit. Car n'ayons aucune illusion sur la capacité de Trump de dire demain matin on arrête ceci, on arrête cela, ses petits camarades démocrates et l'équipe Biden vont lui laisser le monde dans un état catastrophique et donc il aura bien de la peine à refaire de la politique, même avec les milliards de monsieur Musk. Parce que les milliards, et c'est ça la deuxième leçon, pour des populations qui sortent de la colonisation, fut-elle indirecte, je pense aux pays d'Afrique qui sont en train de s'émanciper, les milliards de monsieur Musk ne compte pas. Ce qui compte, c'est le respect des populations, c'est leur capacité à se gouverner elles-mêmes, à utiliser leurs propres ressources, à ne pas être tenues par la main par le Fonds monétaire international. C'est ça qui se joue, c'est l'écroulement d'un système dont Biden et les démocrates sont une des expressions et dont Musk et Trump sont une autre des expressions. Alors, il y a une expression qui est soi-disant plus présentable, vaguement progressiste sur certains aspects, droits de l'homme et tout, enfin toute une comédie qu'il y a autour de ça, qui cache effectivement ce que la main gauche fait avec les assassinats politiques. Et puis, il y a carrément Trump et Musk, c'est l'argent qui gouverne, je veux ceci, j'achète le Groenland, j'achète le Canada et tout. Bon, on est en plein délire, mais c'est un délire de puissance affaiblie. Ah ouais, c'est un péfir de vieillard gâtisant, je le dis. Vieillard gâtisant. J'attaque pas l'âge, mais enfin, comment peut-on tenir des propos pareils quand on est à la tête d'un État de 350 millions de personnes, surarmées? Alors, je dis plus la première armée du monde, parce que en effectif et en budget, c'est vrai, mais son incapacité militaire est patente, puisqu'il fait toujours battre les autres à sa place, qu'il n'est même plus capable de faire lui-même. C'est un vendeur d'armes, ça c'est clair. Je signale, ça aussi, c'est une pierre dans le jardin de M. Emmanuel Macron, que la France a repris en 2024 la place de deuxième exportateur d'armes mondiales. Bravo la France de M. Macron. Alors Macron et ses ambassadeurs, c'est les ambassadeurs de Thalès, c'est les ambassadeurs d'Assaut, c'est les ambassadeurs de ça. Ils vendent de l'armement. Voilà, un tableau assez rapide de la situation. J'ai forcément oublié des choses. Habib, on a des choses à revoir. Bon, on va reparler beaucoup de la Syrie,
ouais,
parce que je dis, cette espèce d'entonnoir où tout s'engouffre et toutes les valeurs sont piétinées, où on fait passer un terroriste pour un gentil garçon, où on fait passer une ministre d'âme pour évoluer alors qu'elle veut rentrer à la maison. Comme combat féministe, on fait pas pire. Hein. Et donc, on a un étalage de toutes les turpitudes et de toutes les impasses de notre civilisation occidentale finissante, alors que partout ailleurs, il y a des gens qui lèvent la tête et qui disent « on prend nos affaires en main, on s'en occupe ». Coup de chapeau en passage au Sénégal, ouais. Qui a dit, hein, le Premier ministre sénégalais et ce président ont dit la même chose, l'armée française s'en va. Ah ouais. Et M. Macron...
Même en Côte d'Ivoire, j'ai entendu.
Oui, alors, ah ouais, même chose. Alors, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, justement, les deux cas sont très, très intéressants à comparer. Ouais. Au Sénégal, c'est très clair, et ils l'ont confirmé, c'est-à-dire que le président et le Premier ministre disent « Nous avons donné l'ordre à l'armée française de s'en aller. » Et M. Macron, qui a pris ça comme une énorme paire de claques, a dit « Non, non, on a négocié. » Réponse immédiate du Premier ministre sénégalais. On n'a rien négocié. On est des grands garçons. On a décidé qu'on accueillait les troupes qu'on voulait, des pays qu'on voulait, ou qu'on accueillait personne. C'est tout. On n'a pas négocié avec... S'il te plaît, va-t'en. Non, s'il te plaît. Alors, le s'il te plaît, va-t'en, il est destiné à la consommation personnelle de M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que là, il faut dire que, ça y est, la France a les mains propres, maintenant elle n'a plus de troupes et tout. Alors on dit à M. Ouattara, dites qu'on s'en va, et puis probablement on va se cacher quelque part dans les cuisines ou dans les coulisses, on sera là, n'ayez pas peur.
Oui, ils seront en civil, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, c'est ce que je pensais, ils seront déguisés, ils seront déguisés, voilà, c'est tout. Mais comme M. Ouattara, qui doit son pouvoir à la France, ne peut évidemment pas dire non à ce genre de manipulation. Mais il est le dernier pion de ce qui reste de la France.
De la France, ouais.
Le dernier pion. Hein. Puisque même, alors il est question que M. Kémy Séba soit candidat à la présidence du Bénin, donc là, l'affaire Talon s'arrêterait là. Et donc là, on a affaire, je prends les pays d'Afrique, mais il y en a d'autres aussi, qui disent, aujourd'hui nous prenons nos affaires en main, l'Éthiopie est en train de beaucoup se développer, d'autres pays le font. Je souhaite que l'Amérique latine ne tombe pas entre les mains de nouveaux Milei. Il y a un risque effectivement réel en Équateur. Le gouvernement colombien est fragile. Hein. Bon, il y a des risques en Amérique latine. Mais il faut voir que l'année dans laquelle nous rentrons aujourd'hui est une année de grande transformation, dont le positif est l'émancipation de la grande majorité des humains vivant aujourd'hui sur la planète de la tutelle des tueurs fascistes. C'est ça, la leçon. Et donc, ça ne peut se terminer que par la musique que j'avais prévue la semaine dernière.
Juste avant.
Oui, vas-y.
Parce que tout à l'heure, vous parliez de ceux qui étaient bien faibles, malades, etc. On a oublié de parler de celui qui a fait longévité, qui est mort aujourd'hui.
Exact.
Donc, tout le monde le sait. Hein.
Voilà, dont le parti, le parti qu'il a fondé et qui continue, est candidat à ces espèces de gouvernements entre la droite et l'extrême droite, où de toute façon la frontière n'existe plus entre la droite et l'extrême droite, sauf peut-être dans la tête de certains politiciens qui se croient très très habiles et très malins. Et donc, effectivement, la France fait partie du camp des semi-fascismes un peu installés en cours de développement. On s'y opposera par tous les moyens démocratiques possibles.
Voilà. Merci.
Merci Roselyne. Merci Habib.
Merci à toi
Jean.
Debout l'éternité de la terre, debout les forçats de la faim, La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, fait son table rase, faut l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'internation sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et